Le quart d'heure corrézien, l'émission d'information hebdomadaire de Bram FM, RGB et RCF Limousin.
Bonjour tout le monde et bienvenue dans le 45e numéro du quart d'heure corrézien. Je m'appelle Olivier Sérac et ensemble, durant un quart d'heure, nous revenons sur l'actualité de la semaine dans notre département. Et cette semaine, nous faisons un focus sur Corrèze Autonomie. Créée depuis le début de l'année, cette structure du département se veut être un service public de l'autonomie avec un accès facilité et qui réponde efficacement aux besoins des personnes âgées ou faisant face à un handicap de courte ou longue durée. Cela ne vous a pas échappé, le 60e salon de l'agriculture Porte de Versailles à Paris débute ce week-end. Mais en Corrèze aussi, il est possible d'aller à la rencontre des agriculteurs. La Confédération Paysanne organise le salon à la ferme, nous vous en dirons plus dans ce quart d'heure. Enfin, où en sont les travaux sur la ligne POLT? Une nouvelle réunion entre l'État, les élus locaux, les usagers et la SNCF s'est déroulée en début de semaine dans le Lot. Nous ferons le point sur ce dossier en fin d'émission. Le quart d'heure corrézien, vous avez le menu, c'est parti. Proposer un service public de l'autonomie aux Corréziens, c'est ce qu'a mis en place depuis le début de l'année le Conseil départemental de la Corrèze. Un service baptisé Corrèze Autonomie, tout simplement, mais surtout un guichet unique qui permet, avec un seul numéro de téléphone, de pouvoir être orienté vers le meilleur correspondant, comme le souligne Pascal Coste, le président de l'exécutif corrézien.
L'idée, c'est d'avoir un numéro unique, le 0555 3x19, qui permette d'être une porte d'entrée unique avec des opérateurs qui peuvent répondre à pas mal de questions. Aujourd'hui, 2/3 des questions qui sont posées sont résolues très très rapidement dans la semaine, parce qu'il y a des besoins aussi d'informations, parce que tout le monde ne connaît pas comment marchent tous ces systèmes d'autonomie, à quoi on peut avoir droit, comment ça fonctionne. Ensuite, ça permet d'avoir un dossier personnalisé, individualisé, suivi dans le temps, où tous les intervenants vont pouvoir noter ce qu'ils ont fait et donc de pouvoir aussi avoir des alertes pour pouvoir suivre les personnes aussi en fonction de leur évolution dans le temps. Et le numéro unique permet de garantir aussi la proximité, parce que lorsque vous avez des personnels qui travaillent 35 heures et qui sont en congé ou en congé maladie, il n'y avait pas forcément la continuité de service aujourd'hui. Là, la mutualisation des 41 gens de proximité permet d'avoir tout le temps quelqu'un au bout du fil.
Parce que l'enjeu démographique est énorme en Corrèze, pensez quand même qu'aujourd'hui 35% de la population a 60 ans ou plus, et cela représente 84 000 Corréziens, et le vieillissement continue, poursuit Pascal Coste.
Le papy boom qui va arriver, des plus de 75 ans, à partir de 2030, est donc une vraie préoccupation. Il faut faire, avec des moyens qui vont croissant, mais moins que le besoin, eh bien rationaliser l'ensemble aussi des services. Et donc, on a souhaité créer un service public, parce que qui mieux que le service public peut prendre à bras le corps ces sujets-là. Le département, c'est 258 millions d'euros de budget, dont 100 millions d'euros qui sont consacrés à ces politiques d'autonomie. Donc il était important qu'on puisse rassembler trois services qui étaient un peu atomisés aujourd'hui.
À Égletons, par exemple, Rosie Decroix a besoin d'aide pour organiser son quotidien et celui de son mari, Maurice. En un seul coup de fil, elle a obtenu toutes les réponses nécessaires.
J'ai vu l'assistante sociale de la mairie au CCAS et c'est elle qui m'a donné ce numéro de téléphone. J'ai téléphoné et ça s'est fait de suite. Moi, ça va me permettre d'avoir quelqu'un qui vienne me faire du gros ménage, parce que j'ai des problèmes d'épaule et comme je donne beaucoup pour m'occuper de mon mari, parce que j'ai personne pour m'occuper de lui, donc il faut que je supervise tout ce qui est les repas, le linge, tout. Mais ça, je fais tout, moi, il n'y a pas de problème. Je suis encore capable de tout faire. Ça va m'aider au moins 2 fois par semaine.
Corrèze Autonomie regroupe 3 services, la direction de l'autonomie, la maison départementale pour les personnes handicapées, MDPH, les instances de coordination de l'autonomie et la téléassistance. Et c'est un soulagement pour Rosie.
Quand je m'en vais pas souvent, je m'en vais pas longtemps, mais il suffit qu'il est déjà tombé 3 ou 4 fois, donc pour le relever après, c'est pas évident. Et bon, ben, quand, là maintenant, il pourra appuyer et puis on viendra, il y aura quelqu'un qui viendra.
Proposer les services les plus adéquats possibles tout en anticipant les besoins des personnes, c'est tout le travail des 6 superviseurs du territoire. Catherine Trancia est l'une de ses superviseurs. Elle peut ainsi coordonner le travail de ses équipes.
Elles me le font remonter. et elles m'expliquent le plan qu'elles ont proposé en lien avec la famille, et moi je le vois. L'avantage, c'est que ça me permet de voir toutes les situations, parce que quand les coordinatrices vont être en congé, je suis censée voir qui prend le relais. Il y a toujours une continuité de service. Ça permet que j'explique à la collègue, mais également la traçabilité de l'outil de la téléassistance. C'est-à-dire, en allant voir l'historique, elle pourra le voir. Au département, nous avons des cahiers de coordination avec un logiciel interne qui nous permet de voir tout ce qui a été déjà mis en place, et on ne part pas à zéro, quoi. C'est voir comment on peut maintenir à domicile quelqu'un avec le plus d'aide possible et l'aide la plus fine possible et réajustée.
Corez Autonomie vise à favoriser au maximum le maintien à domicile des personnes âgées ou souffrant d'un handicap. Le service est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et reste donc joignable au 05 55 19 19 19. Le 60e salon de l'agriculture débute ce week-end, porte de Versailles à Paris. Une dizaine d'éleveurs corréziens de Limousine et de Salers, mais aussi de Moutons, seront présents en compagnie également de producteurs labellisés Origine Corrèze. Et dans cette période de tension folle dans le milieu agricole, la Confédération Paysanne prend le contre-pied du salon. Charlindo, vous êtes avec Jonathan Ozou, le porte-parole de la Confédération Paysanne en Corrèze.
Jonathan Ozou, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que ce salon, c'est un contre-salon ?
Le salon à la ferme existe depuis plusieurs années. Ça a été lancé lors de la première année du Covid pour délocaliser un peu le salon de l'agriculture à Paris, l'amener un peu plus sur les territoires, ouvrir la ferme à la société civile.
Et alors pourquoi organiser ce salon pour aller vers les agriculteurs ? Celui de Paris, donc, n'est pas assez représentatif ?
Il faut aussi être réaliste. Il y a plein d'autres producteurs et avec plein de systèmes de production différents qui ne seront pas présents au salon de l'agriculture. Culture à Paris. Donc c'est pour ça que nous, Confédération Paysanne, nous avons organisé et nous lançons ce salon à la ferme pour ouvrir les fermes sur le territoire et aller à la rencontre de la société civile, montrer qu'il y a des producteurs locaux autour d'eux, et du coup c'est pour ça qu'on ouvre les fermes.
Quel écho ça fait au contexte cette année ?
Il n'y aura pas vraiment d'écho particulier, puisque avec ou sans mobilisation, nous aurons quand même continué à faire le salon à la ferme, et on continuera à faire le salon à la ferme. Du coup le thème de cette année, la souveraineté alimentaire, forcément qu'on parlera de la dernière mobilisation organisée par la FNSEA. La souveraineté alimentaire, forcément ce thème rapprochera des mobilisations. Clairement aujourd'hui, les revendications portées par les autres syndicats se rapprochent un peu des nôtres, pour ce qui est la question du revenu, et sur le libre-échange. On se doit d'en parler parce que c'est une grosse problématique nationale, la souveraineté alimentaire, et il est temps d'en parler un peu plus.
Est-ce que vous attendez des visites particulières ?
Nous allons inviter les institutions à être présentes. On verra s'ils se déplacent ou pas. Nous avons vu que monsieur le préfet est allé visiter une ferme en Corrèze il y a quelques jours d'élevage laitière. Donc on espère que monsieur Desplanques se déplacera aussi sur une de nos trois fermes ouvertes ce week-end. Ouais. Et pourquoi pas à la table ronde. Ouais.
Au niveau des annonces du Premier ministre, donc ce mercredi 21 février au matin, concernant la crise du monde agricole, est-ce que ça vous paraît être des solutions concrètes à vos revendications ?
Pour nous, à la Confédération Paysanne, c'est un recul environnemental. C'est la folie d'annoncer des choses pareilles. Alléger le plan éco-phyto, ça va bénéficier encore à l'agro-industrie. Et c'est ça qui est problématique. C'est que l'agro-industrie fait disparaître des paysans sur le territoire, grignote du foncier. C'est toute une problématique globale. Et le plan éco-phyto en fait partie. On donne un accès supplémentaire, on va dire, ou continue à l'utilisation de pesticides pour continuer l'agriculture productiviste, et c'est pas celle-là qui fait vivre les territoires.
Le chef du gouvernement a annoncé une suspension des cotisations patronales pour les saisonniers. Est-ce que ça, par contre, ça rentre dans le cadre de rendre attractive la profession ?
Ça va surtout résoudre le problème de trouver de la main-d'œuvre. On va dire que c'est plutôt une bonne chose. Mais localement, le revenu sur tous les territoires de tous les paysannes et paysans, c'est pas ça qui va changer. C'est pas une exonération de charges patronales. Aujourd'hui, la problématique du revenu, elle est plus importante que ça. Il y a déjà l'importation de produits en masse sur des productions qu'on a sur le territoire. Je vais prendre l'exemple de la noix. Clairement, aujourd'hui, sur le territoire, en magasin, nous trouvons de la noix du Chili, quoi. Alors que des tonnes de noix traînent dans les séchoirs pour être vendues. Au vu de la crise de la noix, déjà, c'est inadmissible de voir ça. Et la problématique du revenu est aussi que nous ne pouvons pas vendre nos produits au-dessus de notre coût de production. Et ça, c'est une grosse problématique. Aujourd'hui, on travaille à perte, en fait. La majorité travaille à perte.
De fait, une meilleure application de la loi Egalim, comme il est promis d'être mis en place, ça permettrait une meilleure rémunération des agriculteurs ?
Je ne suis pas d'accord avec ça. Non, la mise en place de la loi Egalim ne va pas assurer un revenu pour toutes les paysannes et les paysans. Aujourd'hui, c'est clair et net. Il faut aussi pouvoir augmenter le pouvoir d'achat des Français pour qu'ils puissent acheter aux producteurs français à un prix correct direct décent et que nous, paysannes et paysans, nous pouvons enfin vivre de notre métier. Il y a une urgence, d'autant plus qu'il y a une urgence aussi de renouvellement de génération. Du coup, il faut rendre ce métier attractif.
Quoi d'autre pour inciter les personnes qui, par exemple, ne sont pas sensibles à la consommation locale et française ?
Instaurer des prix minimums d'entrée garantis sur tous les produits importés. Ça évitera de la concurrence déloyale et ça assurera un meilleur revenu pour toutes les paysannes et les paysans internationaux, quoi, du monde, quoi. Aujourd'hui, le problème n'est pas que national, n'est pas que français, c'est un problème mondial. Aujourd'hui, les paysannes et les paysans ne vivent pas correctement de leur métier.
Jonathan Ouzou, est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose ?
Ben, juste que j'invite tout le monde à nous rejoindre sur nos fermes ce week-end et venir participer à la table ronde de dimanche.
Le salon à la ferme de la Confédération Paysanne de Corrèze se tient ce week-end. Merci beaucoup Jonathan Ouzou.
Merci Charline, rendez-vous donc samedi de 10h à 18h aux côtés de Joris Mertens, éleveur de vaches laitières au 39 chemin de la Chassagne à Saint-Mexant. À Brancey, c'est le château Copin de Séverin Noël qui vous ouvre ses portes samedi après-midi de 14h à 18h et pourra ainsi discuter avec vous de l'impact du changement climatique sur sa production de vin. Enfin, Jonathan Anzou, que vous venez d'entendre, vous propose de découvrir sa production maraîchère située à Billac, dans le sud corrézien, pas très loin de Brancey justement. Et dimanche donc, une table ronde sur la souveraineté alimentaire est organisée à Bétail, dans le nord du Lot. C'est chez Angélique Montaille que ça se passe, au lieu dit Coujac, à partir de 14h. Que se passe-t-il en ce moment sur la ligne POLT, cette voie ferrée entre Paris et Toulouse via le Limousin ? Une nouvelle réunion s'est tenue dans le Lot en début de semaine. Réunion entre l'État, les élus locaux, les usagers et la SNCF. Alors concrètement, Lucie Alix, que peut-on en retenir ?
Et bien que les travaux se poursuivent. Depuis le début de l'année, il ne vous a pas échappé que deux trains du matin au départ de Brive et deux trains du soir au départ de Paris-Austerlitz se sont supprimés. Ils ne roulent pas, tout simplement afin de permettre à un immense train chantier ou train usine de faire des travaux entre Limoges et la souterraine, mais aussi entre Limoges et Userche. Ces travaux sont simples, remplacer les rails, traverses et ballastes vétustes et installer de nouvelles structures. C'est ce que l'on appelle, en langage technique, de la régénération.
Et ces travaux, combien coûtent-ils ?
Eh bien là, pour ces travaux qui se font sur 47 km, le coût total du chantier est de 58 millions d'euros. Mais vous doutez bien qu'il n'y a pas que entre Limoges et la souterraine ou entre Limoges et Userche que des travaux sont nécessaires. D'ailleurs, selon un communiqué de la préfecture de région de Nouvelle-Aquitaine, depuis 2018, ce sont près de 2,5 milliards d'euros qui ont été injectés dans la ligne POLT par l'État et la SNCF.
Mais pourtant, ça ne semble pas suffire.
C'est en tout cas ce que martèlent les élus locaux et les usagers, qu'ils soient originaires de l'Indre, de la Creuse, de la Haute-Vienne, de la Corrèze ou encore du Lot. Bref, tous les départements desservis par le Lot, ils crient et rouspètent contre, je cite, « un grand déclassement », pour reprendre les mots de Pascal Coste, président du conseil départemental de la Corrèze. Alors pourquoi un grand déclassement, me direz-vous ? Eh bien parce que selon le président de l'exécutif corrézien, la SNCF cherche la rentabilité à défaut de remplir sa mission de service public. Pour l'élu LR, je cite encore, « si on doit aller à la capitale pour des raisons familiales ou professionnelles, il faut prendre la voiture. » Et pour lui, c'est catastrophique. En plus de ça, c'est ironique, mais c'est à souligner. Lors de la dernière mobilisation des élus et usagers en gare de Limoges en janvier dernier, le train en provenance de Paris affichait 1h40 de retard, et tout ça à cause d'un défaut de matériel.
Mais cela veut dire qu'il n'y a pas besoin que de travaux alors ?
Si, si, bien sûr, il faut des travaux pour régénérer la ligne, mais aussi pour entretenir les bas-côtés des voies, éviter les chutes d'arbres ou les divagations d'animaux. Mais il faut aussi de nouveaux matériels. Quoi qu'il en soit, pour les élus et l'association Urgence POLT, ces travaux arrivent surtout beaucoup trop tard. Durant des années, les voies n'ont pas été assez entretenues. Conséquence, eh bien les trains sont en retard, mais ce sont aussi des correspondances qui sont ratées. Bref, toute une desserte qui s'en retrouve bouleversée. Mais le problème avec les travaux sur la ligne POLT, c'est que les usagers et les élus espéraient 14 allers-retours entre Paris et Toulouse. Et qu'en réalité, eh bien, il n'y en aura encore que 10, voire 11 prévus tous les jours, et encore avec seulement 5 entre Cahors, Brive et Paris.
Et concernant le matériel, nous avions déjà parlé de l'arrivée des rames oxygène. Elles sont toujours d'actualité ?
Oui, la préfecture de la région Nouvelle-Aquitaine l'assure et s'assure aussi que le calendrier de livraison sera tenu. Parce que oui, il y a du retard dans cette livraison et c'est un retard notamment dû à la crise Covid. Quoi qu'il en soit, ces nouvelles rames oxygène doivent commencer à arriver en 2025 et les dernières livraisons sont prévues l'année suivante en 2026. Ces rames vont petit à petit remplacer les actuelles intercités. Beaucoup plus modernes, ces trains devraient aussi être beaucoup moins confrontés aux pannes de motrices. Un vrai calvaire sur la ligne POLT. En attendant leur arrivée, l'État assure que de nouvelles motrices vont être déployées sur la ligne POLT. histoire d'éviter les pannes ou en tout cas de pouvoir rapidement remplacer un matériel parfois très usé. Mais pour l'instant, aucun chiffre n'a été communiqué.
Merci Lucie pour toutes vos précisions. Vivement 2025 alors. Nous suivrons les avancées de ce projet au fil des mois puisqu'une nouvelle réunion de suivi est prévue au printemps prochain. C'est la fin de ce 45e numéro du quart d'heure corrézien. Merci à Charline Do et Lucie Alix de RCF Limousin pour leur travail et leur soutien cette semaine. Je vous propose de vous retrouver la semaine prochaine pour toujours plus d'informations corréziennes. Et d'ici là, je vous souhaite d'excellents moments en Corrèze ou ailleurs.
Vous venez d'entendre le quart d'heure corrézien. L'émission est à retrouver sur nos sites bramfm.com, rcf.fr et radiograndbrief.fr.